14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Il faut absolument qu'on recherche, parce qu'il y en a un ou deux ou trois ou quatre, je ne sais pas combien il y en a, mais il faut absolument qu'on recherche les assassins de ma fille. Parce que ça ne peut pas se terminer comme ça. C'est pas possible.
Bonjour, une jeune fille assassinée, un riche notaire accusé du meurtre, un juge révolutionnaire qui combat l'ordre bourgeois. Voilà les trois ingrédients de l'affaire qui a divisé la France à l'aube des années 70, affaire exceptionnelle. La première à connaître un déferlement médiatique sans précédent, placé sous l'œil permanent des caméras de télévision. Un crime devenu le symbole de la guerre des classes, au point qu'on en oublierait presque la jeune victime, Brigitte de Vèvre. 15 ans et demi pour ne retenir que le nom d'un lieu brûlé en Artois, une commune du Pas-de-Calais. Malgré le temps et la mémoire qui s'efface, l'affaire demeure toujours aussi emblématique, un mystère. Près de 50 ans après le meurtre, malgré les pistes, les inculpations, les changements d'enquêteurs et de juges, on ne sait toujours pas qui a tué la petite Brigitte et qui a ramassé ses lunettes. Pourquoi ce crime est-il devenu un crime hors norme? Existe-t-il encore une chance de mettre un nom sur l'assassin? Question qui continue à nous habiter et que nous poserons à nos invités.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire de Bruay-en-Artois au printemps 72. Le nom de cette commune du Pas-de-Calais, posée au beau milieu du bassin minier, va vite être connu de la France entière, à la faveur d'un crime tout aussi soudain que révoltant. Dans l'après-midi de ce jeudi 6 avril 1972, deux enfants qui jouent au ballon dans un terrain vague coincé entre les rues de la Comté et de Ranchicourt à Bruay-en-Artois stoppent net en apercevant dans un coin de la parcelle une silhouette dénudée et gisant sur le dos. C'est une jeune fille ou une jeune femme, les enfants ne savent pas très bien. Il y a du sang autour de son cou et sur son buste. Ses jambes ont été maladroitement dissimulées sous un vieux pneu qui traînait dans ce champ qui fait office de dépotoir. La victime ne respire plus, elle est morte. Gendarmes et policiers sont rapidement sur place. Le terrain est interdit aux curieux et ratissé à la recherche d'indices. Les légistes établissent que le décès est survenu la veille aux alentours de 19h45-20h. L'autopsie va vite préciser que la jeune victime est morte par étranglement et suffocation à l'aide d'un lien souple, un foulard ou une pièce de tissu. La malheureuse a été traînée sur le sol et manifestement déshabillée à ce moment-là. Moins de 3 minutes après la mort, elle a été frappée derrière la tête, mutilée avec un instrument tranchant de type serpette, hachoir ou hachette. Elle n'a subi aucune agression sexuelle, un crime gratuit de désaxé, de rôdeur ou de sadique, pense-t-on alors à Bruay. L'un des enfants qui jouait au ballon, Philippe, a vite identifié la petite morte. C'est sa sœur, Brigitte de Vèvre, 15 ans et demi, fille de mineur. La famille habite à côté, au numéro 16, rue de la Comté. La police judiciaire de Lille part à la chasse aux témoignages. Mercredi 5 avril, veille du crime. Brigitte de Vèvre a quitté ses parents vers 19h30 pour aller dormir chez sa grand-mère, quelques rues plus loin. Un chemin qu'elle connaît bien. Elle a été aperçue vivante pour la dernière fois aux alentours de 19h40. Une habitante, Dominique Roger, 20 ans, dit l'avoir vue discuter près du terrain vague avec un homme grand, fort, entre 25 et 30 ans, portant un chandail à col roulé. Une autre riveraine de la rue de Ranchicourt indique avoir noté la présence d'une Peugeot 504 blanche garée ici à l'heure du crime. Un véhicule qui gênait l'entrée de son garage et qui appartient à maître Pierre Leroy, le notaire de Bruay. 5 jours après la découverte du corps, Henri Pascal, premier juge d'instruction au tribunal de Béthune, décide d'entendre le notaire, maître Leroy. Un célibataire austère de 37 ans, installé depuis toujours dans la commune, semble gêné de devoir répondre à des questions indiscrètes. Il confirme sa présence mercredi 5 aux abords du lieu du crime. À 20h35, il s'est rendu chez son amie Monique Béguin-Mayer, une femme en instance de divorce, qu'il fréquente discrètement et dont la maison n'est séparée du fameux terrain vague que par une haie d'aubépine. Concernant son emploi du temps, entre 18h30, heure à laquelle il a quitté son étude, et l'heure du crime, 19h45-20h, eh bien il ne sait pas trop. Il change 5 fois de version, le juge est convaincu de tenir le suspect numéro 1. Jeudi 13 avril 72, le juge Pascal, s'appuyant sur sa seule intime conviction, trop de contradictions dans les déclarations du témoin, décide d'inculper le notaire d'homicide volontaire. Le magistrat reconnaît qu'il ne dispose pas d'indices. Les enquêteurs n'ont pas pu retrouver les lunettes de Brigitte, pas plus que les talons de ses chaussures. Manque également l'outil tranchant qui a servi à mutiler gratuitement la victime. Pas de mobile, pas d'aveu, pas de preuve. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Béthune, maître André Guilly, s'exclame « De toute ma carrière, je n'ai jamais vu un dossier aussi fragile, mais qu'importe !» Pierre Leroy est incarcéré. Coup de théâtre et coup de tonnerre. Le juge Pascal, marqué à gauche, opposé au secret de l'instruction, révèle lui-même l'inculpation au journaliste. Il a même permis de filmer l'arrestation du notaire. L'affaire du meurtre de Brigitte Devèvre va rapidement s'emballer. Chacun va devoir choisir son camp, les pro-juges et les anti-juges, les soutiens du notaire et ses détracteurs. Un crime de classe qui va débouler sur le terrain politique. Le juge Henri Pascal est décidé à mener tambour battant l'affaire Brigitte Devèvre. Dans les 15 jours suivant l'inculpation du notaire, il interroge ce dernier à 3 reprises. Maître Leroy indique s'être rendu ce soir-là chez sa mère à Oudin, à 4 km de Bruay. Il aurait ensuite roulé avec sa voiture sur de petites routes afin d'essayer le moteur de sa 504 qui chauffait, avant d'aller retrouver chez elle son amie Monique. Un emploi du temps toujours aussi imprécis, considère le magistrat, qui n'a aucune intention de remettre en liberté le suspect. L'amie, Monique Béguin-Mayer, fille de l'un des plus gros marchands de meubles de la région, est elle aussi questionnée. Elle indique que Pierre Leroy ne portait pas sur lui de traces de sang et avait un comportement normal. Elle dit n'avoir pas vu le corps de Brigitte Devèvre alors qu'elle taillait sa haie d'aubépine. Le jeudi 27 avril 72, Bruay est le théâtre d'une reconstitution qui tourne au grand spectacle et au bain de foule. Des centaines de personnes sont massées dans les rues. Le notaire, protégé par des gendarmes, est conspué, hué, insulté. La témoin, Dominique Roger, ne reconnaît pas en Leroy l'homme au col roulé qui parlait à Brigitte. Les vêtements saisis chez le notaire et qu'il portait le jour du crime ne donnent aucun indice. Malgré cela, le juge rejette les demandes de mise en liberté de Maître Leroy. 12 juillet 72, soit 3 mois après le crime, le juge Pascal organise une deuxième reconstitution. L'affaire, sur laquelle le magistrat souhaite ne garder aucun secret, et surtout pas le secret de l'instruction, a alors pris une tournure passionnée et politique. De nombreux militants de la gauche prolétarienne, parmi lesquels Serge Julie et François Ewald, se sont emparés de ce dossier, illustration selon eux d'un crime de classe. Un comité pour la vérité et la justice, rejoint par la famille de Brigitte et ses proches, voit le jour. Autant de voix qui soutiennent le combat du juge Pascal, un juge qui ne parvient pas pour autant à réunir des preuves. Lors de cette deuxième reconstitution, les témoins ne reconnaissent toujours pas Maître Leroy comme l'homme du terrain vague. Mais un homme dans le public, membre du comité pour la vérité et la justice, reconnaît lui formellement Monique Béguin-Mayer. Elle était dans la voiture du notaire à l'heure du crime. « Ne dites pas que vous m'avez vu, sinon je vais aller en prison », aurait-elle demandé à ce témoin de la dernière heure. Sur la foi de ce seul témoignage, Monique Béguin-Mayer est à son tour inculpée de complicité d'homicide et écrouée à la prison des femmes de Losses-les-Lille. Le comité porte à bout de bras le juge Pascal, le petit juge, comme le surnomme la presse, magistrat bouillonnant et truculent, toujours prêt à se laisser photographier et à répondre aux questions. Les avocats du notaire et de Monique Béguin-Mayer s'insurgent contre une instruction à charge. Un dossier vide, bancal. Le parquet de Béthune déplore, lui, le comportement de ce juge incontrôlable. La requête en suspicion légitime contre Henri Pascal, déposée par les avocats, est rejetée. Mais l'affaire fait bien trop de bruit. Le 20 juillet, la Cour de cassation dessaisit le juge Pascal, provoquant la colère de nombreux habitants et des militants du comité justice. Dossier dépaysé, un juge de Paris, Jean Sablérolle, va reprendre l'affaire à zéro. Le dessaisissement du juge Pascal, même s'il est contesté par ses partisans et dénoncé par les parents de Brigitte, apaise quelque peu le climat ambiant et relance une enquête qui va connaître un rebondissement majeur. 2 jours avant que le juge Henri Pascal ne soit dessaisi, la cour d'appel d'Amiens a fait libérer le suspect numéro 1, le notaire Pierre Leroy, après 3 mois de détention. Son amie Monique Béguin-Mayer va elle aussi pouvoir quitter sa cellule après 19 jours de prison. Avec ses libérations, le dossier s'effiloche, un désaveu pour la famille de la victime et tous les sympathisants du comité Vérité et Justice. Des dizaines de personnes continuent à visiter le terrain vague où l'adolescente a été tuée. Une pancarte ici porte ces mots. À cet endroit, Brigitte Devèvre, fille de mineur, a été assassinée par la bourgeoisie de Bruay. Le nouveau juge Jean Sablérolle reprend alors un dossier sans dessus-dessous, sans indice, sans témoignage capital. Seul un coup du destin pourrait relancer l'enquête. 18 avril 73, un an et 12 jours après le meurtre, la chance semble tourner en faveur des enquêteurs. Un jeune homme de 17 ans, Jean-Pierre, sympathisant du comité de soutien à la famille Devèvre, avoue le meurtre. Au juge, il indique avoir eu rendez-vous avec Brigitte dans la soirée du 5 avril. Ils se sont disputés, il ne sait pas pourquoi, mais il l'a étranglée avec un chiffon trouvé par terre. Il a traîné le corps jusqu'au terrain vague, traversant la haie d'aubépine de Monique Mayer. Il a voulu maquiller le meurtre en crime de sadique. Il a dévêtu sa victime et l'a frappé à coups de hachette. Les lunettes de Brigitte sont retrouvées cachées dans la doublure d'un fauteuil au domicile du frère de Jean-Pierre. Il les a ramassées quand Brigitte les a perdues. Elles sont reconnues par l'opticien de Bruay et le père de la victime. Les proches du jeune homme sont incrédules. Il se raconte des histoires. Il a lu trop de journaux. Le fait est que Jean-Pierre ne va pas tarder à se rétracter, trop tard pour la justice qui pense avoir sous la main le meurtrier de l'adolescente, même si une nouvelle fois le dossier n'est pas vraiment étayé. Le 3 avril 1974, Jean-Pierre est amené sur la scène de crime pour une reconstitution. Il avait un peu moins de 16 ans quand Brigitte a été tuée. Deux ans plus tard, Jean-Pierre, de constitution toujours fragile, est incapable de soulever et de porter dans ses bras le mannequin articulé 56 kilos censé représenter sa victime. 10 heures de reconstitution, Jean-Pierre nie avoir étranglé Brigitte. Quand le juge lui demande « Qui alors ?», il se tourne vers le notaire, convoqué lui aussi, et s'exclame « Demandez-le à Leroy ». Pierre Leroy obtient un non-lieu le 30 octobre suivant, tout comme sa désormais épouse, Monique Mayer, qui devient Monique Leroy, tous deux blanchis de tout soupçon. Le 27 juin 1975, Jean-Pierre est donc seul à répondre du crime de Brigitte Devèvre devant le tribunal pour enfants de Paris. Il est jugé pour homicide volontaire. Les parents de la victime, persuadés que le prévenu n'est pas le bon, ont décidé de ne pas se constituer partie civile. Le procès, prévu pour durer 18 jours, se déroule à huis clos. Les incohérences de ses versions et la psychologie à fleur de peau de l'accusé poussent le tribunal à acquitter un jeune homme émotif. Jugement confirmé un an plus tard par la cour d'appel. Personne ne sait alors qui a étranglé Brigitte. Après l'acquittement de Jean-Pierre, l'enquête sur la mort de Brigitte Devèvre ne va plus intéresser la justice. Des investigations abandonnées au bon vouloir d'un juge d'instruction qui va peu à peu laisser retomber le silence sur un dossier qui avait fait pourtant tant de bruit. Il faudra des années pour que peu à peu l'ombre du meurtre de Brigitte Devèvre s'efface de ce paysage de corons et que la guerre entre les riches et les pauvres, les bourgeois et les ouvriers s'estompe. Les principaux acteurs ont disparu. En avril 89, le petit juge Henri Pascal, 68 ans, rend son dernier souffle après avoir toujours cru sans doute à la culpabilité du notaire Pierre Leroy. Ce dernier disparaît moins de 10 ans plus tard, en octobre 97. Tous deux n'avaient jamais quitté la région. L'affaire est classée sans suite en 81, officiellement prescrite en 2005. Aucun élément nouveau n'a jamais émergé, aucune confession n'a été délivrée. Le dossier semble donc refermé à tout jamais. Le lieu du crime, le terrain vague de la rue de Ranchicourt, n'existe plus, remplacé par un lotissement. En 87, la commune de Bruay-en-Artois avait retrouvé une existence plus discrète, sous son nouveau nom, Bruay-la-Bussière.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.